Nous allons parler aujourd'hui essentiellement du Concile de Trente, parce que c'est un concile d'une extrême importance qui, on peut dire, a structuré l'Église catholique jusqu'à nos jours. D'autre part, ce concile a beaucoup à voir, par ses réformes, avec un certain nombre de projets de réforme du pape François. Les réformes ne sont pas les mêmes, mais les conditions du succès ou de l'échec des réformes sont extrêmement proches. Et en introduction, je vais justement parler des papes. Alors, le Concile de Trente, 1545-1563, 18 ans pour un concile, et vous allez voir qu'il y a 6 papes qui ont été concernés. Alors, le premier pape à vouloir un concile a été Adrien VI, un Hollandais, qui était, je crois, le dernier pape non-italien avant Jean-Paul II, 1522-1523, bref, pontificat. C'était un réformateur. Il avait 2 défauts. Le premier, c'est que si c'était un réformateur, ce qui est très bien, il était un peu fougueux de tempérament, un peu impatient, et surtout, il était assez moralisateur. Vous allez me dire, c'est très bien la morale. Mais quand vous vivez dans un univers de cardinaux ou d'évêques qui n'étaient pas forcément des parangons de vertu, c'est un peu gênant parce que je dirais qu'il a voulu convoquer un concile, on lui a fait comprendre que ce n'était pas le moment, comme il n'a pas régné longtemps, enterré. Le deuxième, c'était le pape Clément VII, assez long pontificat pour l'époque, où on mourait vite, 1523-1534. C'était un réformateur, un homme qui avait un sens moral élevé. Il a nommé une commission. Et naturellement, sa commission de cardinaux a vite enterré le projet de concile. Alors, ensuite, nous avons troisième pape, Paul III, 1534-1549. C'est lui qui a convoqué le Concile de Trente. Il a mis 9 ans à arriver à ses fins. Mais comme il a régné 15 ans, ma foi, c'était bon. Alors, il a mis beaucoup de temps à convoquer son concile parce qu'il y a eu une forte résistance de la curie. Et n'oublions pas qu'à l'époque, au Vatican, un certain nombre d'offices, de postes, étaient soumis à vénalité, ils étaient achetés. Exactement comme le roi de France, c'était comme ça à l'époque. La Fontaine était maître des eaux et forêts, il avait acheté son poste. Donc tous ceux qui avaient acheté leur poste se disaient surtout pas de concile. Moi j'ai acheté mon poste, s'ils nous réforment ça, on va peut-être supprimer mon poste, je ne pourrai pas le revendre. Et puis d'autre part, vous aviez déjà quand même une espèce d'opposition entre réformateurs et conservateurs. J'ose pas dire progressistes, intégristes, mais il y avait des évêques qui disaient « il faut réformer ». Il y avait des évêques qui disaient « faut pas réformer, c'est trop dangereux ». Comme toujours, dans ces cas-là, c'est les conservateurs qui l'emportent, parce que c'est plus facile de ne rien changer que de changer. On se fait moins d'ennemis, tout le monde le sait, y compris en politique, vous savez. Regardez De Gaulle en 58, il a tout réformé avec ses ordonnances, bien entendu. Il avait les pleins pouvoirs pour 6 mois, sinon s'il avait soumis ça au Parlement, il n'y aurait eu aucune réforme. Voyez-vous, si vous prenez les centres hospitaliers universitaires, c'était la réforme par ordonnance de 59, c'est le professeur Robert Debré, s'il y avait eu une loi, il y aurait eu tous les lobbies médicaux, il n'aurait jamais rien réformé. Bon. Là, c'est un peu pareil. D'autre part, les rois n'étaient pas très chauds. Je vous ai dit, Luther a fait sa réforme avec sa lettre au prince de la noblesse allemande. Il a eu avec lui la majorité des princes, des ducs, etc., allemands, qui l'ont soutenu contre l'empereur d'Autriche. Il y avait une nécessité d'avoir un soutien temporel. Bon, les deux monarques principaux, c'était François Ier et Charles Quint. Alors, François Ier était gallican. Il se méfiait énormément du pape, comme presque tous les rois de France. Il avait, vous le savez, signé un concordat avec le pape, le concordat de Bologne, qui lui donnait de grands pouvoirs pour nommer les évêques et qui a été en vigueur jusqu'au concordat de Napoléon Ier. Et François Ier, en bon chef d'État français, se disait « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de concile ? Moi, j'ai signé quelque chose avec le pape. Un concordat, c'est un traité. Un traité, ça doit être respecté par les deux parties. Qu'est-ce qui me dit que son concile, il va pas, par exemple, réformer la nomination des évêques ? Et alors, qu'est-ce que je fais ? Moi, j'ai signé, ça ne sera plus valable. » Il n'était pas très chaud. Quant à Charles Quint, ça va peut-être vous surprendre, il se méfiait du concile parce qu'il avait peur que le concile soit anti-protestant. Or, vous le savez, les Provinces Unies, à l'époque, la Hollande, étaient sous souveraineté espagnole. Et Charles Quint se disait, au fond, ces protestants, déjà, bon, moi je ne suis pas content qu'ils soient protestants, je suis catholique, enfin, imaginez qu'on ennuie trop les protestants, ils vont se révolter, ils vont me coller une guerre civile, il faudra que j'envoie mon armée, je préfère le statu quo. Or, sans le roi de France et sans l'empereur d'Espagne, on pouvait très très difficilement faire quelque chose. Je vous rappelle d'ailleurs que, en ce qui concerne les fameuses indulgences, le roi de France et l'empereur Charles Quint n'étaient pas pour ces indulgences. Ils disaient quoi ? Le pape, il veut de l'argent pour construire son Saint-Pierre de Rome, tout ça. Moi, l'argent des Espagnols, l'argent des Français, ça doit rentrer dans le trésor public espagnol, dans le trésor public français. Puis si le pape est pauvre, tant mieux, il sera plus faible. Tandis que si le pape est riche, c'est un peu ennuyeux. Ce qui fait qu'en fait, les Français et les Espagnols ne versaient pas beaucoup au pape. Hein. Tandis qu'en Allemagne, il y avait, si vous voulez, une espèce de morcellement de l'espace politique. Les Allemands donnaient beaucoup. Et c'est pour ça que Luther s'est révolté. Donc, le pape a eu énormément de difficultés parce qu'il n'avait pas de soutien politique. Enfin, comme il était extrêmement persévérant, ce pape, Paul III, y est arrivé. Ce n'était pas un modèle de vertu, vu qu'il avait trois enfants, et il a nommé cardinaux des petits-fils aussi. Mais il avait quand même deux qualités. Un, c'était un homme très résolu. Un homme qui ne reculait pas, il voulait son concile, il aurait son concile. Deux, c'était en même temps un diplomate. Il y avait à la fois chez lui de la carotte et du bâton. Et surtout, il a su être très diplomate, justement, dans les relations franco-espagnoles. Il a un peu caressé les deux monarques dans le sens du poil, pour obtenir, non pas leur approbation ni leur accord, mais une sorte de neutralité résignée. En gros, il a dit à François Ier et Charles Quint, « Bon, je comprends vos réticences, mais je vous aime beaucoup, je maintiendrai tout ce que j'ai signé avec vous, il n'y a aucun problème, vous continuerez, vous nommerez vos évêques, tout ce que vous voudrez. » Donc, il a réussi avec patience à, je dirais, obtenir une sorte de neutralité résignée des deux monarques. d'une certaine manière, il a fait un peu comme le fameux Alexandre Borgia, qui avait plein de bâtards, etc., mais qui avait réussi à mettre d'accord les Portugais et les Espagnols pour les limites des colonies. C'était quand même un grand succès. Donc voilà ses qualités. Donc ça, c'est le troisième pape, Paul III. C'est incontestablement à lui que l'on doit la convocation du Concile. 4, Marcel II. Alors, il a régné 20 jours. Alors, il est un peu connu parce que Palestrina a écrit pour lui la messe du pape Marcel. Très bel ouvrage musical. Bon, il a régné 20 jours, c'est un petit peu moins que Jean-Paul Ier, mais enfin, bon, il n'a pas fait grand-chose. Alors, en 5, il y a Paul IV, qui était un homme énergique, intègre moralement, mais un peu trop brutal. Total, les pères conciliaires se sont révoltés, ils ont décidé d'interrompre leurs travaux. Et enfin, le dernier, c'est Pie IV, le sixième pape, qui lui était au contraire tout à fait conciliant. Il a dit aux évêques, ben voilà, revenez débattre, moi je serai à votre écoute, pas de problème. Parce que vous savez, il y avait la théorie du concile à l'époque, c'est-à-dire que certains pensaient que le concile était au-dessus du pape. Ça, ça faisait très peur au pape. Mais lui, il a dit en gros aux évêques, écoutez, moi, vous déciderez ce que vous voudrez, puis j'appliquerai vos décisions, donc il n'y aura pas de problème. Il s'est montré là très conciliant, très diplomate, et enfin, le concile a achevé ses travaux. Je vous signale que pour le concile Vatican II, on était parti pour un concile interminable aussi. Et c'est la raison pour laquelle le pape Paul VI a dit cette session, c'était en 1965, ça sera la dernière, il n'y en aura pas d'autre, parce qu'il faut terminer ça. Et là, il fallait terminer ce concile. Et pour le terminer, il fallait surtout pas brusquer les évêques. Voilà les six papes. Et nous arrivons à ce concile de Trente. En fait, un petit peu de Bologne au départ. Seulement, il y a eu une épidémie à Bologne, donc on est allé à Trente. Et d'autre part, le concile avait été aussi un petit peu retardé lors de ses premiers travaux, parce qu'il y a eu un conflit entre François Ier et Charles Quint. Encore une fois, pour que le concile se tienne, il fallait que non seulement Charles Quint et François Ier ne soient pas opposés au concile, mais qu'ils évitent de faire la guerre dans toute l'Europe, ne serait-ce que parce que dans ce cas-là, les évêques n'iraient pas au concile. C'est ça le problème. Alors c'était retardé, et ce concile a pris 7 grandes décisions dont vous allez mesurer toute l'importance. Premièrement, il rappelle le symbole de foi, le credo de Nicée-Constantinople, qui est la version longue du credo. Il dit, voilà, les révérends pères conciliaires ont décidé ça au 4e et au 5e siècle. C'est toujours valable, intégralement, on ne change pas un iota, puisque ça a été rédigé en grec, à ce qu'ont décidé les pères de Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, etc. Rien. On ne change pas un iota et on n'ajoute rien. Pas d'autres confessions de foi, c'est-à-dire professions de foi. Autant les protestants ont fait beaucoup de professions de foi, ils en ont rédigé Augsbourg, La Rochelle, machin, Strasbourg, tout en maintenant intégralement Nicée, Constantinople, Chalcédoine. Autant le concile a dit Nicée, Constantinople, Chalcédoine et Festa. Voilà, mais interdiction de faire de nouvelles professions de foi. Premier point. Deuxième point, les saintes écritures, en clair la Bible. Les révérends pères conciliaires ont dit, les saintes écritures ont été rédigées sous la dictée de l'Esprit-Saint. On n'y change pas un mot, pas une lettre. Personne ne peut contester ce qui est écrit. Sous-entendu, il convient d'avoir une interprétation littérale de ces saintes écritures, y compris le monde créé en 7 jours, etc. ce qui était quand même un peu différent de ce que les protestants commençaient à dire en matière d'interprétation de la Bible. Troisième point, rappel du péché originel. C'est-à-dire, la faute d'Adam est transmise par propagation héréditaire et non par imitation. Si nous commettons nos péchés, ce n'est pas pour faire comme Adam et Ève, c'est parce que Adam et Ève nous ont transmis ça. Propagation héréditaire. Ce qui pose d'ailleurs le problème de l'adoption, qui, vous savez, est interdite par l'islam d'ailleurs, puisqu'on est musulman de père en enfant. Et ça veut dire très clairement que personne n'échappe au péché originel. Un point très important, ce qui ne signifie pas du tout que l'homme soit uniquement pécheur. On a dit là beaucoup d'erreurs sur le péché originel. Le péché originel en aucun cas ne voit du péché partout. Simplement, il dit que l'imperfection humaine lui est transmise à l'homme par génération. C'est-à-dire qu'il hérite un peu des défauts, au fond, de ses parents et de ses lointains ancêtres que furent Adam et Ève. Quatrième point, nous sommes sauvés, le salut est acquis par la foi et les œuvres. Pas par la foi seule. Seule la fidèle, la foi seule des protestants, ça ne va pas. Pas non plus les œuvres seules comme certains le prétendaient. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous faites la charité un peu partout, ce n'est pas parce que vous donnez aux bonnes, y compris pontificales, que vous allez tout droit au paradis. Comme le disait le pape François, l'Église n'est pas une simple ONG. C'est un point très important, parce que vous savez qu'à l'époque, on créait des tas de fondations. Relisez l'article fondation de l'encyclopédie de Diderot, rédigé par Turgot, l'un des meilleurs ministres des Finances que la France ait jamais connu. Et Turgot disait, on a créé beaucoup trop de fondations qui possèdent un quart du territoire français, tout ça ne sert plus à grand chose, ça a été créé au Moyen-Âge, ça n'est plus d'actualité, c'est démodé. Il y avait quand même le sentiment que ces bonnes œuvres, parce qu'on pouvait créer une fondation pour qu'un prêtre dise jusqu'à l'éternité une messe pour le salut de votre âme, on n'en sortait pas. Et la tentation était de croire que parce que on avait acheté tout ça, fait toutes ces bonnes œuvres, on allait tout droit au paradis. Non, c'est un la foi, deux les œuvres. Et hors de l'Église, point de salut. Donc c'est la foi catholique et les bonnes œuvres catholiques qui procurent le salut. Cinq. Il n'y a pas de prédestination au salut ni à la damnation. Parce qu'il commençait à y avoir l'idée, notamment chez Calvin, d'une prédestination, idée qui était assez nuancée chez Calvin, mais qui sera systématisée par Jansénius au XVIIe siècle, c'est-à-dire en gros, pour une partie de l'humanité, et une très grande partie, le destin, c'est l'enfer. C'était la morale sévère de Port-Royal, de Pascal, de Racine, qui disait en gros, au fond, tous ces gens à la cour, là, qui font plein de trucs, pas bien, qui se vautrent dans le luxe et la luxure, y compris les rois qui ont je ne sais combien de... Ils ont une vie privée un peu agitée, c'est l'actualité. Ils iront tout droit en enfer. Et c'était tout à fait compréhensible, sauf qu'avec ce système-là, quoi que vous fassiez, certains étaient promis à l'enfer et d'autres au paradis. Alors là, le concile a été très ferme, il n'y a pas de prédestination. C'est l'homme qui est responsable, par ses actes, de son avenir au-delà de la mort. 6. Les 7 sacrements. Alors, premièrement, le baptême. On baptise des petits-enfants. Certains disaient déjà chez les protestants, ils sont trop jeunes, faut attendre qu'ils comprennent. Non. On baptise des petits-enfants, d'autant que le taux de mortalité infantile et même néonatale était énorme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a toléré que le baptême fût donné par une sage-femme, une accoucheuse, comme ça. Et d'autre part, pas de rebaptême du bébé, à l'âge dit de discrétion. En d'autres termes, si vous avez été baptisé à la naissance, vous êtes baptisé pour la vie, on ne va pas vous rebaptiser avec votre consentement quand vous serez grand. Deuxièmement, la confirmation. Elle est nécessaire à l'approche de l'adolescence. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'adolescence était plus tardive qu'aujourd'hui, il n'y a pas la puberté. C'est un peu, si vous voulez, comme la bar mitzvah ou bat mitzvah chez les Juifs. Point. Alors, vous savez qu'en France, ça a beaucoup varié. De mon temps, on était confirmés en CM2, en classe de 7e, comme nous disions. Maintenant, c'est plutôt seconde. Bon. Et d'autre part, point capital, le ministre de la confirmation est l'évêque et lui seul. Aujourd'hui, il peut déléguer ses pouvoirs. À l'époque, non. Très important, ça. Parce que ça souligne le caractère irremplaçable de l'évêque. Sans évêque, pas de confirmation. Et vous savez que les braves évêques, une grande partie de leur emploi du temps, c'était en calèche, aller dans toutes les paroisses confirmer. Ils arrivaient, ils demandaient, il y a eu combien de baptêmes, combien de confirmations, combien de mariages, etc. Et puis, ils confirmaient. Si vous avez lu Les Misérables, avec le fameux évêque de Digne, qui s'appelait Monseigneur de Miolis dans la réalité, sur des sentiers de montagne et tout, bah, il allait confirmer les adolescents ou pré-adolescents de chaque petite commune des basses Alpes, comme on disait. C'était un emploi du temps très chargé. Seul l'évêque pouvait confirmer. 3. L'Eucharistie. Il y a la présence réelle. C'est vraiment Jésus qui est présent sous l'espèce du vin et du pain. Par la transsubstantiation, le pain devient le corps du Christ et le vin le sang du Christ. Les protestants étaient un peu divisés là-dessus. Luther et Calvin ne pensaient pas tout à fait la même chose. Mais en gros, ils pensaient que le pain et le vin étaient plutôt des symboles. Alors que pour la foi catholique issue du concile de Trente, l'Eucharistie est symbole et actualité. Actualité au sens anglais du terme actuel, c'est-à-dire réalité, capitale. Ensuite, la messe doit être dite en latin et pas en langue vulgaire. C'est la fameuse messe dite de Pie V, le rite extraordinaire qu'on célèbre aussi, je crois, dans une église de Boulogne. Mais, il peut y avoir des explications en langue dite vulgaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, naturellement, beaucoup de fidèles ne sont pas allés à l'école et ne comprennent pas le latin, c'est pas grave. Mais, le prêtre doit donner des explications en langue vulgaire, notamment son serment. Ensuite, culte du Saint-Sacrement, adoration du Saint-Sacrement, comme au Sacré-Cœur à Montmartre, parce que c'est réellement le corps du Christ. Ensuite, on peut dire des messes en l'honneur des saints, car les saints intercèdent pour nous, pour notre, à nos demandes. Donc, on peut dire des messes en l'honneur des saints, contrairement à ce que disaient les protestants. Le culte des saints est réaffirmé et la vénération, pas l'adoration, mais la vénération des saintes images est confirmée. Quatrièmement, la pénitence. La confession est nécessaire. On se confessait pas très souvent, peut-être une fois par an, on faisait ses Pâques, confession et communion. Le ministre de la confession est le prêtre et lui seul. L'absolution des péchés par le prêtre est toujours valide, même si le prêtre est en état de péché mortel. Point capital. Le pape qui avait je ne sais combien de baptêmes, son absolution était valide. Relisez la puissance et la gloire de Graham Greene qui se passe au Mexique il y a 100 ans. Il y a un prêtre alcoolique, mais c'est lui qui dit la messe, c'est lui qui confesse le sacrement de pénitence, l'absolution est valide. D'autre part, le prêtre a le droit de refuser l'absolution. Il l'accorde ou il la refuse. Personne d'autre ne peut le faire. Par la suite, on va compléter tout ça. On va dire l'évêque n'a pas le droit de confesser ses prêtres. Le père abbé n'a pas le droit de confesser ses moines. Le directeur de séminaire n'a pas le droit de confesser ses séminaristes. Parce que on distingue le fort, F-O-R, externe et le fort interne. Celui qui a autorité ne doit pas confesser quelqu'un. Parce que l'absolution des péchés, c'est quelque chose qui est donné par Dieu. Le prêtre n'est que le ministre. Il est celui qui constate cela. Mais en aucun cas, on ne peut dire que, par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, qui aurait fait des bêtises au séminaire, son directeur de séminaire va lui refuser l'absolution. C'est un point capital. Bien. Ensuite, cinquièmement, l'extrême onction. Le ministre, c'est le prêtre, pas de diacre. Parce que, on se disait, au fond, pour l'extrême onction, des jeunes prêtres, à l'époque, on était jeunes prêtres à 20 ans, hein, est-ce que c'est bien? Il faudrait peut-être des hommes âgés, puisque prêtre, ça vient de presbytre, comme presbytie, qui veut dire hommes les plus âgés et les plus dignes, parfois. Les anciens, comme on disait, ceux qui ont condamné Jésus. Alors, il y a deux mots en grec pour dire prêtre, presbytéros, l'ancien, mais là c'est hieros, c'est-à-dire le prêtre consacré, l'homme du sacré, c'est lui seul qui peut donner l'extrême onction, c'est-à-dire le sacrement qui, là aussi, va pardonner, point capital, encore une fois, à une époque où bon, la mort, elle était partout. Naturellement, le débat est toujours d'actualité. On se demande si, par exemple, des diacres ne pourraient pas donner l'extrême onction, des aumôniers d'hôpital. Bon, la réponse, c'est non. Dernier point, septièmement, l'ordre. Il y a 7 degrés dans le sacrement de l'ordre. Portier, lecteur, acolyte, exorciste, sous-diacre, diacre et prêtre. 7. Plus 2... évêque et pape. Ça fait au total 9. 9 degrés de hiérarchie. C'est à peu près autant que chez les ayatollahs chiites. Ils ont aussi un nombre très élevé de hiérarchie. 9 degrés sur terre. Il y a 9 degrés au ciel. C'est la hiérarchie, le pouvoir du sacré. L'angélologie, la science des anges, avait dans les premiers siècles défini 9 degrés de hiérarchie céleste. Ange, c'est tout en bas ça. Ange, archange, principauté. Puissance, vertu, domination. Trône, chérubin, séraphin, c'est tout en haut. De même qu'il y a 9 degrés au ciel, il y a 9 degrés sur terre. En d'autres termes, les autorités terrestres de l'Église sont en quelque sorte la réplique des autorités célestes. Je vous signale que dans le taoïsme chinois, c'est pareil. Et quand, par exemple, l'empereur de Chine nommait des ministres terrestres, il y avait des ministres célestes. Exemple, il y avait une mauvaise récolte, le ministre terrestre de l'agriculture était renvoyé par l'empereur. Mais il y avait un ministre céleste, un prêtre taoïste dans un temple, lui on lui donnait plus d'argent, il était rétrogradé, voyez-vous. Si au contraire les récoltes avaient été bonnes, le ministre terrestre dans la cité interdite par exemple était récompensé, mais le ministre céleste, on lui mettait, vous savez, plein de petits billets là en papier dans son temple. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, s'il y avait un événement malheureux, c'était la faute du ministre terrestre et du ministre céleste. Il y avait toujours une correspondance entre les bienfaits et les méfaits sur terre et au ciel. Donc en réalité, toute cette hiérarchie très compliquée avait une raison d'être. Ensuite, le mariage. Alors, le mariage. Indissolubilité du mariage. On est marié une fois pour toutes, mais le mariage peut être déclaré nul, et même il doit être déclaré nul s'il n'est pas consommé. À l'époque, c'était la seule exception. Depuis, il y en a eu d'autres. Ensuite, l'adultère ne rompt pas les liens. Si votre mari vous trompe X fois, le mariage demeure valide. Mais il y a possibilité de séparation de corps. Et là, il n'est plus consommé, mais il est supposé l'avoir été auparavant. Vous pouvez faire chambre à part, appartement à part, vivre à 1000 kilomètres. Il peut y avoir séparation de corps, ça n'est pas divorce. Refus d'autre part du mariage des clercs réguliers et séculiers, c'est-à-dire des moines et des prêtres, ce n'est qu'une confirmation de ce qui avait été non pas décidé mais déjà réaffirmé par le premier concile du Latran. Dernier point, confirmation du rôle des tribunaux ecclésiastiques pour la déclaration éventuelle de nullité du mariage. Je vous rappelle l'importance politique gigantesque de cette question, puisque le pape avait refusé la dissolution la nullité du mariage du roi Henri VIII. Bien. Enfin, dernier point. On confirme l'existence du purgatoire et donc des indulgences. Les protestants avaient dit purgatoire, c'est une pure invention. Si vous supprimez le purgatoire, il n'y a plus d'indulgence, puisque les indulgences dispensent des peines dites temporelles, une année, 10 années d'indulgence, indulgence plénière, mais c'est seulement ce qu'on appelle les peines temporelles. Le reste, le paradis, l'enfer, ça ne dépend pas de ça. Simplement, grâce aux indulgences, en principe, on va un peu plus vite au paradis. Donc, on confirme le purgatoire, dont les protestants évidemment ne voulaient pas, ils disaient il n'y en a pas de trace dans les Écritures. Deuxièmement, c'est un bon petit business. Conclusion. Si vous voulez, moi je ferai deux conclusions. La première, c'est que ce concile ne pouvait être pleinement appliqué que si les décisions prises pendant ces 18 ans continuaient indéfiniment. On avait très peur que ce concile ne fût une simple parenthèse. pour l'éviter, on a non pas créé, mais recréé l'Inquisition, qui existait déjà depuis 4 siècles, mais on l'a confirmée, complétée, durcie, généralisée. C'est-à-dire, la foi et les décisions du Concile de Trente s'imposent à tous. Le tribunal de la Sainte Inquisition, qui s'est appelé ensuite Saint-Office et qui maintenant s'appelle Congrégation pour la doctrine de la foi, doit dire si ce que professe quelqu'un est conforme ou pas. Galilée, etc., tous ces procès-là, de telle sorte que personne n'échappe à ce qu'a dit le Concile. Ce qu'a dit le Concile s'impose à tous et à toutes de génération en génération. C'est un point très important. C'est-à-dire, on avait peur qu'on n'applique pas ce qui a été décidé, que le pape revienne sur ce qu'avait décidé le Concile, aucun autre concile ne défasse ce qu'avait fait le Concile de Trente. Or, point capital, ce qu'a décidé le Concile de Trente n'a pas été défait par les conciles ultérieurs, sauf l'immense problème de la messe de Pie V et du Concile Vatican II. Et quand Mgr Lefebvre disait, mais cette nouvelle messe dite de Paul VI, elle n'est pas valide, elle n'est pas valable. Moi, je dirais que très honnêtement, il n'avait pas totalement tort. Mais pas totalement tort. Seulement, la question du latin, par exemple, ne se posait plus de la même façon en 1965 qu'au XVIe siècle. Mais dans l'esprit des pères du Concile de Trente, il était évident qu'on ne devait jamais revenir sur ce qu'avait décidé le Concile. Et c'est pourquoi Benoît XVI, qui avait été, si j'ose dire, le saint inquisiteur en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a voulu à tout prix renouer avec les intégristes, et c'est la raison pour laquelle dans chaque diocèse, il y a désormais au moins une ou plusieurs messes selon le rite dit extraordinaire, qui est le rite du Concile de Trente, qui sera codifié par le pape Pie V peu après le Concile. Vous voyez que c'est quelque chose de très 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 important. On s'est demandé pourquoi cette histoire de Mgr Lefebvre. Il avait, je dirais, des justifications, Mgr Lefebvre, dans ce qu'avait décidé le Concile, même si, bien sûr, aujourd'hui, le latin, il y a combien d'élèves qui en font ? Pas beaucoup. Mais voyez-vous, je reviens du Bénin, personne ne fait de latin au Bénin. Sauf les petits séminaristes, qui, tenez-vous bien, utilisent la grammaire petit mangin. Ça vous dira quelque chose. Voilà. Alors, deuxième point, recréation de l'Inquisition, et pour, je dirais, un peu soutenir l'Inquisition, création du fameux index, l'enfer. C'est-à-dire que désormais, il y a une liste de livres qui sont interdits. La vraie foi, elle est définie par le Concile de Trente. Les livres de deux choses une. Où ils sont en accord avec ce qu'a dit le Concile, nos problèmes. Où ils sont en désaccord et ils sont interdits. Et par la suite, vous savez qu'on introduira une procédure en deux temps. Nihil obstat, rien ne s'oppose à la publication de ce livre. Et imprimatur, qu'il soit imprimé. C'est un travail considérable, mais qui est, je dirais, dans la prolongation de cette recréation de l'Inquisition. Qu'est-ce qu'il faut croire? Qu'est-ce qu'il dit ce bouquin? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Par exemple, Richard Simon, au XVIIe siècle, écrira une histoire du Vieux Testament où il commence à remettre en cause les Saintes Écritures sous la dictée de l'Esprit-Saint. Quand Bossuet lira ça, il dira au feu, au bûcher, et on détruira les exemplaires. Donc il y a tout un travail doctrinal, là, et disciplinaire, qui est mené, parce que le Concile de Trente s'est dit en gros, au fond, cette réforme de Luther puis Calvin, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Jusque-là, on avait eu des Wycliffe, des Jean Hus, des gars comme ça. Bon, ça n'allait pas très loin, hein. Ça s'éteignait. Hein. Tandis que là, en l'espace de quelques années, une moitié de l'Europe passe à la réforme. Alors, il faut éteindre l'incendie et on va prendre toutes les mesures, y compris répressives, pour que ça n'aille pas plus loin. C'est un point très important. Deuxième point dans ma conclusion, alors, les jésuites. Alors, en fait, si vous voulez, les jésuites sont un petit peu antérieurs au Concile, mais le Saint-Esprit a bien fait des choses, ils ont été créés à la bonne époque. Parce que le Concile de Trente commence en 1545. Or, les jésuites, l'ordre est fondé le 15 août 1534, donc un petit peu avant, disons Saint-Pierre de Montmartre, mais Montmartre à l'époque c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas le Sacré-Cœur. Et puis en fait, Saint-Pierre était cette magnifique église du XIIe siècle, une des plus belles de Paris, était l'église, enfin la chapelle d'un monastère. Et c'est là, à cet endroit-là, c'est pas au juste où, mais c'est dans cet endroit-là que un certain nombre d'Espagnols plus un Français, je crois qu'ils étaient sept, ont fondé l'ordre des Jésuites. Il y avait Ignace de Loyola, François Xavier, et puis un Français, un Savoyard, Pierre Fabre, que le pape François voudrait canoniser d'ailleurs, et ces sept jeunes religieux fondent un ordre qui prononcera des vœux, chasteté, obéissance, pauvreté, plus le vœu d'obéissance au pape. Mais ce qui est de très important, c'est que quelques années après, il y a le Concile de Trente. Or, le Concile de Trente va, je dirais, arriver à point nommé pour ces jésuites. Parce que il va falloir répandre la bonne doctrine dans tout l'univers chrétien. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les jésuites? Ils vont fonder des collèges partout. Ces collèges vont instruire la jeunesse dans la bonne doctrine catholique, qui est celle du pape, mais qui, à partir de 1545, etc., est celle du Concile. Donc, une bonne doctrine qui a été voulue par les évêques de toute la catholicité et qui a été, bien entendu, approuvé par le pape. Et donc, ces jésuites, ils vont créer des collèges. En France, ils fondent en 1563, il y a exactement 450 ans, un excellent collège qui existe toujours et dont je suis membre du conseil d'administration, puisqu'aujourd'hui il s'appelle lycée Louis-le-Grand. Et dans ce collège, ils vont enseigner toutes les sciences, les lettres, le latin, le grec, les mathématiques, tout ce que vous voudrez. un très bon niveau, c'était déjà un collège d'élite, dans une bonne doctrine chrétienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les jésuites étaient intelligents, ça n'était pas forcément une doctrine obtuse, ça n'était pas forcément de l'apprentissage du par cœur, pas du tout. Hein. Dès cette époque-là, ils avaient une pédagogie assez moderne. Par contre, ils vont être fidèles à l'Église, au Concile et au Pape. Et quand ils verront un roi de France, Henri IV, se convertir du protestantisme au catholicisme, Paris vaut bien une messe, ils vont dire c'est louche, ça. Est-ce que c'est vraiment un bon chrétien, ce roi Henri IV? Et ils vont dire ça à leurs élèves. Et il y a un élève qui a voulu assassiner Henri IV. Et du coup, on a fermé le collège de Clermont pendant un an pour punir les jésuites. Il a rouvert l'année suivante et vous savez que les jésuites, on avait tout simplement expulsé les jésuites de France. Pendant un an, ils ont eu le droit de ne rien faire. Et vous savez que ce sera de nouveau le cas à la fin du XVIIIe siècle. Ils seront interdits dans le monde entier. Il y aura un deuxième gars qui va, alors lui, réussir à tuer Henri IV. C'était un moine qui disait qu'au fond, cet Henri IV n'était pas un vrai catholique, c'est Ravaillac. Et vous savez que la revue des élèves du lycée Henri IV s'appelle Ravaillac. Mais elle est aujourd'hui un peu sur le déclin, cette revue, parce que ils avaient fait un numéro où il y avait les élèves dans la tenue d'Adam et Ève, ça avait un peu choqué. Mais ce qu'il y a de sûr et de certain, c'est que les jésuites ont multiplié dans l'Europe ces collèges pour répandre la juste et bonne doctrine chrétienne et aussi pour instruire, je dirais, l'élite, avec d'ailleurs la création d'un certain nombre de bourses qui fait que dès le XVIe siècle, il y avait des jeunes gens de conditions modestes dans ce collège de Clermont et dans tous ces collèges qu'ils ont créés dans le monde entier. Car ensuite, sur les sept, il y en a un, François-Xavier, qui va aller répandre cette foi catholique du Concile de Trente, jusqu'au Japon, puis il va mourir au large des côtes chinoises. Et dans le monde entier, il y aura des collèges, des universités jésuites. Donc en réalité, la création de l'ordre n'est pas le fruit du Concile de Trente, mais elle est... ce concile est venu au moment, je dirais, parfait pour justifier un petit peu le dynamisme jésuite et avec cette foi universelle hein, du Concile de Trente, les jésuites avaient une sorte de corps doctrinal qu'ils vont servir avec d'ailleurs certaines nuances et certaines intelligences. Alors, ce concile de Trente marque un peu, je dirais, le début de ce qu'on appelait la contre-réforme. Contre-réforme ne veut pas dire réaction, c'est-à-dire c'est pas un retour entièrement à l'état antérieur. C'est contre ce qu'ont décidé les protestants, ça ne veut pas dire que les protestants avaient tort systématiquement. Les protestants ont demandé des changements énormes et selon le Concile de Trente, injustifiés parce qu'il y avait toutes sortes de faiblesses dans l'Église. À partir du moment où on corrige toutes ces faiblesses, le protestantisme n'a plus de raison d'être et doit donc être condamné. Pour en prendre un seul exemple, c'est en application des décisions de ce Concile, notamment celles concernant les prêtres, que dans chaque diocèse du monde, il y aura création d'un grand séminaire et même de petits séminaires pour que la formation des prêtres soit la même dans toute la catholicité. Cela étant, il y aura des ordres qui seront créés postérieurement au Concile de Trente, et on pense notamment aux ordres masculins et féminins qui seront issus de l'action de François de Sales en Savoie, l'ordre la Maison Mère est à Annecy, à proximité de Genève, la ville de Calvin. Et là, incontestablement, le but de Saint François de Sales sera de ramener au catholicisme les brebis égarées dans le protestantisme. Ça, c'est un effet assez direct du Concile de Trente. Les jésuites créés un peu avant, c'est pas aussi net que ça. C'est pas convertir les protestants, mais c'est développer l'intelligence de la foi du Concile de Trente et du pape. Ce Concile de Trente verra un nombre de textes d'application considérable, et cette réforme va, je dirais, se visualiser dans l'architecture des églises, dans un style qu'on a pu qualifier parfois de baroque, un style un peu exubérant, particulièrement net dans les pays qui dépendent de l'Empire d'Autriche, le Saint-Empire. Si vous allez en Autriche, en Allemagne, mais aussi en Hongrie ou ailleurs, vous avez ces églises un peu surchargées de statues, de tableaux, qui parlent des saints, des saintes, qui donnent une véritable leçon de catéchisme en images, et qui viennent compléter les vitraux du Moyen-Âge. Tout ce que Calvin avait refusé en badigeonnant les églises, tout ça est reconstitué, tout ça est au contraire, je dirais, multiplié pour bien montrer l'importance du catéchisme qui sera élaboré à la suite de ce Concile de Trente. Ce Concile de Trente, qui, je vous l'ai dit, voulait perpétuer son œuvre, par un index, par une inquisition, il va tenir assez longtemps, puisqu'il n'y aura plus d'autres conciles avant Vatican Ier, 1870. Donc il va tenir, si j'ose dire, 330 ans. Et encore, le Concile Vatican I, il ne va pas changer grand-chose, sinon l'infaillibilité pontificale, définie comme dogme, et c'est tout. En d'autres termes, c'est seulement au Concile Vatican II qu'on se penchera sur l'œuvre du Concile de Trente en prenant bien soin de ne jamais contredire le Concile de Trente, sauf la messe en latin, d'où Mgr Lefebvre. Pour tout le reste, avec un sens des nuances infini, on évitera systématiquement de contredire ce que le Concile de Trente avait décidé et qui, pour l'essentiel, reste toujours en vigueur. Si vous suivez de près ce que dit et ce que fait le pape François, vous verrez qu'il prend un soin très très grand à ne jamais contredire le Concile de Trente, notamment sur les ministères féminins. Il a dit qu'il n'y aura pas de femmes prêtres. Sur l'indissolubilité des mariages, il ne s'est absolument pas prononcé contre. Autant sur le plan pastoral, il a une approche très indulgente, autant sur le plan doctrinal, il n'a pas retiré un iota à ce qu'a dit et écrit le Concile de Trente.